Chers amis, nous sommes en effet heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur dans sa maison. C'est vraiment merveilleux de se retrouver après plusieurs mois et après cet hiver qui se termine. On est content de savoir que c'est bientôt le printemps parce que l'hiver nous a fait souffrir. J'ai eu beaucoup de rhumatisme. Alors, la dernière fois, je crois que c'était au mois d'août, vous retrouverez la réunion sur le site. Nous avons lu tout le Notre Père dans son contexte, le sermon sur la montagne. Et nous sommes arrêtés au milieu du Notre Père dans notre méditation. Nous avons vu les trois premiers sujets de prière. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous verrons les quatre derniers sujets de prière. Nous avons vu que Jésus a dénoncé nos erreurs humaines lorsque nous prions. Il s'attaque d'abord à ceux qui prient pour paraître, puis il s'attaque aux prières superstitieuses, et finalement, il s'attaque à notre égoïsme dans la prière. Alors, nous voulons relire ce fameux Notre Père qui se trouve dans Matthieu 6. Nous lirons d'abord les deux premiers versets que nous avons déjà médités. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons insisté sur l'importance de l'adresse. La prière commence par une bonne adresse. Il faut savoir à qui on prie. Il faut savoir à qui on parle. À qui on envoie une lettre. Si on sait l'adresse n'est pas bonne, elle n'arrive pas. Et donc, pour nous aussi, c'est important de bien réaliser à qui nous parlons lorsque nous prions. À quel Dieu est-ce que nous parlons? Quelle est la grandeur de ce Dieu? Et cela déjà va augmenter notre foi et notre confiance. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc si nous voulons être entendus, il va falloir croire, exercer la foi. Et puis nous avons souligné l'emploi de notre Père. Et c'est étonnant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont tous les trois la fonction du Père. On peut trouver des versets pour cela. Et cela montre que la Trinité est une. Le Fils est appelé le Père. Le Saint-Esprit aussi est appelé le Père. Et il n'y a pas de différence entre l'Esprit du Fils et l'Esprit du Père. Et puis ce mot « notre » démontre l'importance de la prière communautaire. « Notre ». Jésus aurait pu enseigner la prière ainsi. « Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Non, c'est « notre » à nous tous. Donc c'est une prière collective. Ça montre l'importance de l'Église, du christianisme en général, qui se vit en communauté. Et c'est vrai que nos prières sont souvent très individualistes. Jésus n'a rien contre les prières personnelles. Une prière peut être personnelle, il n'y a pas de mal. Jésus lui-même a fait des prières personnelles quand il était devant le tombeau de Lazare et il dit « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Sa prière à Gethsémané était une prière très personnelle parce qu'il a essayé de joindre ses disciples à ce combat dans la prière, mais ils se sont endormis. Mais ici, Jésus montre la force qu'il y a dans la prière communautaire, parce que nos prières sont souvent tellement personnelles qu'elles ne concernent que notre nombril. Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Voilà bien souvent les prières que nous adressons au Seigneur. Alors nous avons détaillé les trois premières demandes et nous avons constaté avec étonnement que les trois premiers sujets de prière concernent Dieu. Et c'est vrai que nous devons d'abord servir Dieu avant de se servir soi-même. Notre existence devrait d'abord servir à plaire à Dieu avant de chercher notre propre satisfaction. Ainsi, que le nom du Père soit sanctifié. Où doit-il être sanctifié? Le nom du Père doit être sanctifié dans le monde. Il doit être sanctifié dans nos vies. Cela devrait être notre premier souci. Puis que ton règne vienne. Oui, que le règne du Seigneur vienne. Oui, nous pouvons, comme quelqu'un l'a mentionné, aspirer à la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, qui est magnifique. Œuvrer pour l'avancement du règne de Dieu. Et que son règne vienne, que Dieu règne dans nos vies aussi. Et enfin, que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, comme dans notre vie. Oui, voilà nos vraies préoccupations, nos vrais combats en tant que chrétiens. Et nous voyons que là, la grammaire du Seigneur est différente de la nôtre. Notre grammaire, c'est « je, tu, il ». Première personne, deuxième personne, troisième personne. Mais la grammaire divine, c'est l'inverse. C'est lui d'abord, le prochain ensuite, et moi en fin de compte. Alors cela est vraiment étonnant. C'est comme ça aussi que Jésus a résumé les commandements. Aimer Dieu d'abord, aimer son prochain. S'aimer soi-même, évidemment, il ne faut pas se détester. Alors aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur cette deuxième moitié. Que je continue donc la lecture au verset 11, 12 et 13. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà quatre sujets qui suivent ces trois sujets essentiels. Et ce sont quatre sujets qui concernent nos besoins personnels, nos besoins humains. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une prière, vraiment la prière pure. Jésus prend notre besoin de base, la nourriture de chaque jour, le pain de chaque jour. Et les besoins vitaux peuvent être pressants, importants, incontournables. Et alors la prière peut devenir intercession d'après la nécessité. Ainsi, sans tomber dans le superflu, on pourrait ajouter « Donne-nous notre pain et aussi un peu de beurre et de la confiture. » On peut tout dire au Seigneur, on peut tout demander au Seigneur. « Donne-nous un peu de carburant pour la voiture ou de quoi finir le mois, de quoi payer pour notre santé ou pour les études des enfants. » Les besoins sont nombreux et on peut demander au Seigneur de subvenir à tous les besoins de notre vie, jusqu'au simple bout de pain. Cela est vraiment extraordinaire. C'est comme cela que Dieu désire avoir une communion avec nous. Il n'y a pas un domaine de la vie où on ne peut pas appeler l'aide de Dieu. Il n'y a pas un domaine de la vie où on ne peut pas demander son avis ou son plan. Même lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons demander l'aide de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a dans cette phrase du Seigneur un pléonasme, vous l'avez remarqué. Pléonasme veut dire double emploi. Mais c'est un pléonasme volontaire. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le bon pain, il reste frais qu'un jour. Et Jésus veut qu'on lui renouvelle notre confiance chaque jour. La marche chrétienne, c'est chaque jour une foi renouvelée. À chaque jour suffit sa peine. Et remarquez ici l'importance du « nous ». Donne-nous. Ce n'est pas « donne-moi mon pain quotidien ». Et cela montre que l'enfant de Dieu, il pense à ses frères et sœurs. Il ne pense pas qu'à lui-même. Il ne peut pas tolérer que ses frères et sœurs soient dans un tel besoin. Il prie pour eux. Et il prie et il agit aussi. Comme il est dit, si quelqu'un possède des biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Le mot « aujourd'hui » se trouve souvent dans la Bible. Les « aujourd'hui » de Dieu sont remarquables. 270 fois le mot « aujourd'hui ». Et on pourrait parler longtemps sur les « aujourd'hui » de Dieu. La marche avec Dieu, c'est une marche de tous les jours. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire « aujourd'hui ». Hébreux 3. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3. À l'époque de la Genèse, on vivait vieux. Et il est question là d'un homme, Enoch, qui a marché avec Dieu. Chaque jour, marcher avec Dieu. Durant 365 ans. 365 ans, comme les jours d'une année. Donc il a marché 365 fois, 365 jours. C'est-à-dire 133 225 jours. Et il est dit, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Genèse 5. Donc Enoch nous est cité ici en exemple, à marcher tous les jours avec Dieu. On marche un pas à la fois. Un jour à la fois, et cela vaut mieux. Un jour à la fois, chaque jour. Certains ne s'approchent de Dieu qu'aux grands événements, aux grandes fêtes, les mariages, les enterrements, les jours de grands besoins. Là, on va à l'église. Mais les vrais enfants de Dieu s'approchent de lui chaque jour. Les Américains ont un beau cantique qui dit « One day at a time, sweet Jesus ». Vous connaissez ce chant ?« One day at a time ». Très beau chant qui est magnifiquement chanté par Linda Randall. Et ce chant dit « Donne-moi la force de faire chaque jour ce que j'ai à faire ». Oui, donne-nous aujourd'hui la force de faire ce qu'on doit faire. Donne-nous aujourd'hui la force de gagner notre pain s'il le faut. Donne-lui aujourd'hui notre pain de ce jour. Et comme on a vu que chaque phrase de ce Notre Père est une phrase de délivrance au fond. Et quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », cela nous délivre de la peur du lendemain, cela nous délivre de l'inquiétude, de l'avenir et de l'incertitude. Le deuxième sujet de prière, pardonne-nous nos offenses. Et là, nous sommes très étonnés chaque fois de voir l'importance que Christ accorde au pardon. C'est une notion néo-testamentaire qui est vraiment révolutionnaire. Il faut dire que l'Ancien Testament, c'était plutôt œil pour œil, dent pour dent. Et l'enseignement du pardon, c'est nouveau. C'est l'enseignement de Christ. Le pardon fait partie de l'enseignement de Jésus. Lorsque Pierre lui demande « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pèche contre moi ?» Si je lui pardonne 7 fois, c'est déjà beaucoup, non, Seigneur ? Et alors le Seigneur lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, Pierre, mais jusque 70 fois 7 fois par jour. » Ça veut dire que c'est quand même étonnant. C'est comme si Jésus disait à Pierre, mais moi je te pardonne combien de fois? Combien de fois par jour je n'ai pas dû te pardonner? Alors, puisque moi je pardonne, toi pardonne comme moi. C'est la nouvelle doctrine révolutionnaire de Jésus-Christ. Celui qui pardonne, c'est celui qui a raison. Quand Dieu nous a pardonné, nous trouvons qu'il a bien fait, non? Il a bien fait de nous pardonner, non? Ouais, il a bien fait. Pourquoi? Parce que nous avions tort. Nous avions tort. Et c'est bien à lui que le tort a été fait. C'est à lui que le tort a été fait. Et il nous a pardonné quand même. Jusqu'à donner sa vie pour que le pardon soit possible, que le pardon soit juste. Donc, Dieu n'est pas resté sur ses droits. Il a renoncé à ses droits. Il meurt à ses droits. C'est ainsi que Christ nous a pardonné en prenant nos torts à son compte et en mourant sur la croix. Donc, il a eu raison de le faire. Ça nous arrange bien. C'est celui qui a raison, qui meurt à lui-même et qui meurt à ses droits. C'est vraiment étonnant. Il a porté toutes nos offenses sur le bois. Et chaque fois que nous nous approchons de la croix avec un cœur repentant, il nous pardonne. C'est sa parole qui le dit. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1. L'épître, la première épître de Jean est magnifique. Lorsque Jean parle des petits-enfants, on pense qu'il s'adresse là à des tout jeunes convertis, des nouveaux convertis. Et il dit, je vous écris, petits-enfants, à ces chrétiens débutants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est vraiment la base. La base de la vie chrétienne. Alors voilà, cette phrase magnifique du Seigneur, pardonne-nous nos offenses, elle nous délivre de notre culpabilité. C'est une phrase de délivrance. L'enfant de Dieu est délivré de la culpabilité par le sacrifice de Christ. Et Jésus y ajoute une phrase d'engagement de notre part, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous en faisons une promesse dans notre prière. C'est une parole d'engagement. Et il faut, pour comprendre cette phrase, sous-entendre comme nous nous engageons à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous nous engageons à le faire parce que c'est possible. Nous sommes pardonnés nous-mêmes. C'est pourquoi nous pouvons pardonner à notre tour. Celui qui est pardonné à la croix, il a la force de pardonner à son tour. Le signe du pardon reçu, c'est le pardon donné. La preuve du pardon reçu, c'est le pardon qu'on peut donner à notre tour. Et là aussi, plusieurs textes des Épîtres abondent dans le sens du Seigneur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Colossiens 3. Et là encore, on pourrait ajouter ce texte de la première épître de Jean qui nous dit « Si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, cela nous délivre de tout besoin de ressentiment. On n'a pas besoin de vivre dans le ressentiment. On n'a pas besoin de vivre dans la haine ou dans la vengeance. Non, nous sommes délivrés de ces sentiments négatifs. Quelle liberté nous avons en tant que chrétiens d'être délivrés de ces sentiments néfastes. C'est la liberté en Christ. Troisième sujet de prière dans ce Notre Père. Ne nous induis pas en tentation. Ça a été une phrase difficile à traduire et d'après les versions, vous verrez des nuances. Parfois, on dit « ne nous soumets pas à la tentation ». Et c'est une phrase peut-être un peu difficile à comprendre parce que la Bible dit que Dieu ne tente personne. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que ne nous laisse pas dans une situation de tentation. Ne permet pas que nous nous endurcissions lorsque la tentation persiste. Et là, oui, le Seigneur a bien raison, parce qu'il y a dans la Bible des exemples où des gens ont persévéré dans la tentation au point de s'entêter contre la volonté de Dieu, et jusqu'à ce que Dieu les laisse dans cet état qu'ils ont voulu eux-mêmes, cet état de perdition. Mais la prière du Seigneur nous fait dire non, ne nous soumets pas, Seigneur, à nous-mêmes, ne le permets pas, empêche-nous tout entêtement contre tes plans qui pourraient naître en nous. Tout ce qui est contre ta volonté, Seigneur, que ce soit brisé. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. On pourrait parler, par exemple, du déclin du premier roi d'Israël, Saül. C'est un déclin qui est venu petit à petit, et puis qui s'est empiré au fur et à mesure que la vie avance. On s'endurcit. Il s'est laissé dominer par un esprit de jalousie qui s'est amplifié parce qu'il a laissé faire. Il ne supportait plus David à cause de ses exploits. Une première fois, il a essayé de tuer David avec sa lance. Heureusement, il avait raté. Et alors, il s'est repenti. Mais c'était un simulacre de repentance. Parce que le lendemain, c'était la récidive. Et il a cultivé ses mauvais sentiments et a continué à se livrer au mal. Alors, à un moment donné, Dieu l'a livré au mal. Parce que c'était cela qu'il voulait. Et en quelque sorte, Dieu lui a dit, « Tu veux vivre le mal, tu vas l'avoir. » Et nous voyons dans 1 Samuel 31 comment le roi Saül termine sa vie. Tragiquement, il consulte une nécromancienne, ce qui était quand même interdit, et il le savait. Et il meurt tragiquement dans une attaque des Philistins, lui et ses fils. On peut citer un autre exemple dans l'Ancien Testament aussi, c'est Pharaon, dans Exode, chapitre 7 à 12, et il y a l'histoire de Pharaon avec les 10 plaies d'Égypte. Et lui aussi, plusieurs fois, fait un simulacre de repentance. Quand Moïse lui demande de laisser partir le peuple pour qu'il serve l'Éternel dans le pays promis. Et 6 fois, il est mentionné, Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Il n'écouta point Moïse et Aaron et ne laissait pas partir le peuple. Mais après ces 6 fois, la Bible mentionne que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Et c'est mentionné 4 fois encore. C'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Il voulait vivre dans la désobéissance et il l'a eu. 6 fois Dieu a eu patience avec lui. Mais à partir de la 7e fois, c'est Dieu lui-même qui va endurcir son cœur pour le livrer à la désobéissance qu'il a obstinément voulu. Ainsi, on comprend mieux cette prière. Seigneur, ne nous laisse pas dans notre endurcissement contre toi. Ne nous encourage pas dans nos bêtises. Ça veut dire, Seigneur, arrête-nous par ta discipline. Et là, on comprend mieux les textes qui parlent sur la discipline de Dieu. Comme par exemple, Hébreux 12, qui dit que Dieu nous discipline, nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12. Texte magnifique. Alors, plusieurs traductions ont mis épreuve à la place de tentation, parce que le mot grec employé, c'est perasmon, qui veut dire tentation ou épreuve. Comment savoir si on veut dire tentation ou épreuve? C'est le contexte qui le montre. Alors, ici, certaines traductions donnent « ne nous emporte pas dans l'épreuve » ou « ne nous laisse pas succomber dans l'épreuve ». Et c'est vrai aussi qu'il y a souvent une relation entre la tentation et l'épreuve, parce que l'épreuve est une tentation et la tentation est une épreuve. Mais la plupart des traducteurs ont préféré le mot « tentation » parce que cela correspond mieux au sens de la phrase suivante, « délivre-nous du mal ». Donc, ne nous induis pas à la tentation, nous délivre de tout endurcissement du cœur. Et combien cela est important dans notre relation avec le Seigneur et envers les uns envers les autres. Puis il y a ce 4e sujet de prière, « délivre-nous du mal ». Le mot « mal » peut aussi être traduit par « malin ». Donc, vous trouverez certaines versions qui disent « délivre-nous du malin ». Et le mot « délivre » ici est magnifique, puisque c'est vraiment le mot-clé du Notre Père. Chaque phrase nous délivre de quelque chose. Le Notre Père est une prière de délivrance. Alors, la pensée du Seigneur concernant le mal et concernant le malin, nous est encore exprimé par une autre prière de Jésus, la prière sacerdotale dans Jean 17, où Jésus dira « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Dans la lumière de la Bible, le mal sera ôté, le malin sera anéanti. Mais en attendant, il agit encore, il influence. Le monde est entièrement sous son influence, comme cela nous a été suggéré ce matin. C'est son système. Jésus réalise que ce n'est pas possible pour le chrétien d'être totalement isolé du monde. Jésus ne veut pas faire des chrétiens des ermites, mais il veut qu'ils puissent vivre dans le monde sans être victimes du monde. Vivre dans le monde en étant vainqueur de son influence. Comme David le disait dans le psaume 23, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. David savait que la vallée de l'ombre de la mort existe et il y est passé plusieurs fois, mais cette vallée ne l'a pas anéanti au point de perdre tout courage, de perdre la foi. Non, dans ces moments difficiles, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Souvent, nous avons tendance à repenser à notre passé, plus les années augmentent, et nous pensons à des moments difficiles par lesquels nous sommes passés, même parfois des moments de doute ou de révolte envers Dieu, tellement nous avons passé par des moments graves. Mais Dieu nous a donné la victoire. Et cela est magnifique. Paul aussi en parle par expérience. Nous sommes pressés de toute manière, mais pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Magnifique passage de 2 Corinthiens 4. Donc délivre-nous du mal. Nous délivre du relativisme, nous délivre de minimiser la toute-puissance de Dieu pour nous protéger et nous aide à voir les vraies valeurs du spirituel plus que le matériel, les vraies valeurs de l'éternel plus que le temporel, les vraies valeurs de l'invisible plus que le visible. Alors voici la dernière phrase de notre Père, je termine par là. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est une phrase qu'on appelle doxologie, ça veut dire conclusion, qui donne gloire à Dieu. Doxos veut dire gloire. Alors, vous serez peut-être étonnés de voir, dans certaines versions, on a mis cette phrase en parenthèses ou en italique. C'est parce que cette phrase était chantée par la communauté après la prière, c'est la liturgie romaine, même dans la liturgie juive, cela existait. Il y avait des phrases comme ça qu'on chantait après les psaumes. Et c'est pourquoi vous ne trouverez pas cette phrase dans les manuscrits les plus anciens. Et comme les dernières versions de la Bible préfère s'attacher uniquement aux manuscrits les plus anciens qui sont supposés être les plus exacts. On met cette phrase entre parenthèses. Mais nous, on est quand même habitués à notre version seconde. Et si on ne dit pas cette phrase à la fin du Notre Père, ça nous semble vraiment bizarre. D'autant plus qu'il est probable qu'à un moment donné, les copistes se sont dit: tout le monde connaît cette phrase par cœur, on l'a dit depuis des générations, mais on ne l'écrit pas puisqu'on la chante par cœur, on va l'écrire pour les générations futures. Et donc beaucoup de théologiens pensent que c'est exactement cela qui s'est passé. Et cette phrase est magnifique parce qu'elle nous rappelle que Dieu ne change pas. On aurait peut-être préféré une doxologie du genre « À toi appartiennent pour tous les siècles la miséricorde et la grâce, la bonté, l'amour, etc. » Ça aurait été peut-être plus positif. Mais le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament. C'est un Dieu qui règne, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux qui agit selon sa justice. Il ne faut pas que nous l'ignorons, parce que la victoire finale et totale de Dieu nous est assurée. Il sera reconnu roi de l'univers. Nous partagerons son trône et nous régnerons avec lui. Nous aurons sa puissance. Nous rayonnerons sa gloire. Et donc, il mérite notre considération et notre respect. Pas question de considérer Dieu comme un pote. On entend parfois des témoignages. Dieu, c'est mon pote. Il est un père, pas un pote. Et même dans le Nouveau Testament, on nous encourage à avoir la crainte de l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux dira même « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Ah, on avait oublié ça. On avait oublié ça. Et c'est important que nous ayons ce respect pour le Seigneur. Prions. Père céleste, nous disons amen à ta prière. C'est une prière magnifique. Merci parce qu'il y a des délivrances que tu nous octroies. Tu nous donnes chaque jour la force de faire ce que nous devons faire sans inquiétude pour le lendemain. Seigneur, tu nous délivres de la culpabilité. Tu nous pardonnes et à cause de ton pardon, tu nous aides à pardonner à notre tour. Tu nous délivres de la haine, la vengeance, le ressentiment. Seigneur, tu nous délivres de tout entêtement. Tu nous délivres du mal, du malin. Tu ôtes le mal dans ce monde et dans nos vies. Oui, Seigneur, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et nous t'attendons que tu puisses hâter le jour de ton retour. Nous attendons, Seigneur, le jour de ton triomphe universel, que nous puissions bientôt joindre notre voix à celle des anges et à toutes les créatures pour te crier notre joie et te dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la force au siècle des siècles. Merci Seigneur pour cette gloire à venir en laquelle nous croyons et qui est notre espérance vivante. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Amen.